l'Académie de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Varlam Chalamov n'écrivait pas l'histoire de la Révolution, ni celle de sa famille, il écrivait l'histoire de son âme, rien de plus. Mais la quatrième Vologda était bien un récit autobiographique. Vologda, le nom d'une rivière. Vologda, le nom d'une ville située à 400 km de Moscou. Mais, précisait Chalamov, la distance entre Vologda et la capitale n'avait pas cessé de diminuer. S'enfuir de cette ville devenait de plus en plus facile et de plus en plus tentant. Mais cela dépendait évidemment de quelle Vologda il était question. La première, la deuxième, la troisième ou la quatrième. Le 10 décembre 2008, Céline Geoffroy proposait Le choix des livres.
Vous écoutez France Culture, tout de suite Le choix des livres par Céline Geoffroy. Ce soir, la quatrième Vologda de Varlam Chalamov, traduit du russe par Sophie Benesch, publié aux éditions Verdier. Né en 1907, Varlam Chalamov, l'auteur des récits de la Kolyma, est le fils d'un prêtre orthodoxe qui fut missionnaire aux îles Aléoutiennes avant de s'établir avec sa famille à Vologda, une ville du nord de la Russie, à l'atmosphère culturelle très particulière en raison du grand nombre d'assignés à résidence envoyés par le régime tsariste. Dans la quatrième Vologda, Chalamov relate son enfance et son adolescence dans cette ville, la vie de sa famille organisée autour de la figure écrasante et étouffante du père, les parcours de ses frères et sœurs, et le sien, marqué par son goût très précoce pour la lecture et les livres, la découverte des auteurs russes, anglais et français, les jeux d'écriture sur des petits papiers volants, tout ce qui constitue pour lui la véritable Vologda, la seule à demeurer encore en lui à la fin de sa vie, quand il rédige ce récit, quelques années avant sa mort, en 1982.
Pour Pétersbourg comme pour Moscou, Vologda était la province. Mais pour Pétersbourg, il s'agissait d'une ville moins excentrée, où les acteurs de l'avenir pouvaient reprendre leur souffle après une course folle. Cela, c'est la troisième Vologda. Mentalement, et en partie physiquement, matériellement, la troisième Vologda est tournée vers l'Occident, vers les deux capitales, Pétersbourg et Moscou, et vers ce qui se trouve au-delà de ces capitales, l'Europe, le monde avec un grand M. Pour des raisons tant morales que physiques, cette troisième Vologda, dans son aspect vivant et concret, a toujours été constituée de déportés. Pour ces déportés assignés à résidence, quand bien même ils vivaient ici depuis des générations, Vologda n'était qu'une prison de transit, une étape dans leur vie trépidante. Ce sont précisément les déportés qui ont introduit dans le climat de Vologda la dimension d'un avenir qui, même utopique, même dogmatique, n'en refusait pas moins le brouillard de l'incertitude au nom de l'aube des espoirs. À Vologda, cet avenir de la Russie était déjà du présent, dans les discussions philosophiques des clubs, dans les débats, les conférences. Ces espoirs se concrétisaient toujours et rapidement. Les déportés s'évadaient, on les ramenait, et tout recommençait. C'est à Vologda que Hermann Lopatin est venu chercher Lavrov, afin que celui-ci puisse participer aux barricades de la Commune de Paris. Ils empruntèrent la voie de chemin de fer Vologda-Pétersbourg. Lopatin attendit longtemps le train à Vologda, et faillit bien tout faire rater. Mais les trains ne se sont pas mis à rouler plus lentement. Au contraire, ils sont devenus plus fréquents. La distance entre Vologda et la capitale n'a cessé de diminuer. S'enfuir devenait de plus en plus facile et de plus en plus tentant. Les déportés qui ne s'évadaient pas étaient libérés sur demande. Il était facile de revenir dans les capitales. Aucun déporté n'avait envie de s'éterniser à Vologda et aucun d'eux ne s'y éternisait. C'est cet élan vers l'Occident qui constitue la troisième Vologda, celle des déportés, passés, présents et à venir. De telles graines ne restent jamais sans porter de fruits. La terre est trop riche, trop grasse, trop imbibée de sang, au sens propre comme au sens figuré. Les discussions des déportés entre eux, ce ne sont pas des discussions sur l'orteil d'Ivan le Terrible, mais sur l'avenir de la Russie, sur le sens de la vie. le caractère provisoire de la déportation ne se substitue pas au caractère provisoire de l'existence terrestre. La liberté de penser s'épanouit à Vologda sous des couleurs éclatantes, celles de la liberté de penser de Jefferson, de Franklin. N'importe quel proscrit de Vologda est parfaitement qualifié pour faire sur les mouvements révolutionnaires modernes une conférence du niveau des tout derniers courants philosophiques, religieux, économiques. Ici, comme toujours, la politique remplit un rôle de levier pour la culture générale. Vologda est bien informé sur Bloch, sur Balmont, sur Khlebnikov, sans parler de Gorky ou d'une idole de la province russe comme Nekrassov. On s'arrache la cloche de Herzen, et pas seulement à qui la faute. Il est tout naturel que mon père, un chaman et un fils de chaman, devenu un homme de culture européenne après 12 ans de service à l'étranger, soit revenu non dans la première Vologda, dont sa famille était originaire, ni dans la deuxième, la Vologda historique au nom de laquelle on lui avait appris à parler, mais dans la troisième, celle du mouvement de libération. C'est dans cette troisième Vologda que mon père a débarqué avec tous ses contacts, ses centres d'intérêt, ses relations et ses idéaux, à son retour d'Amérique, en 1905, 2 ans avant ma naissance. Le projet même de ma naissance est le fait d'un homme différent du prêtre qui était parti pour les îles Aléoutiennes au siècle précédent. Je n'ai pas été une expérience de mon père, j'ai été une mise, un pion dans son jeu, il ne savait pas jouer aux échecs, sinon j'aurais utilisé une autre comparaison, dans une partie qui ne devait rien au hasard, mais qui était calculée, réfléchie, raisonnable, et gagnée d'avance. Et ce n'est pas de sa faute si les forces auxquelles il s'est heurté étaient trop inattendues. Il était impossible de discerner leur envergure dans aucun cercle politique, même Dostoïevski, qui a pressenti beaucoup de choses, et passé à côté de la solution pratique à cette question théorique. Mon père n'avait guère recours à Dostoïevski, ni à la littérature de façon générale. Positiviste jusqu'à la moelle des os, il ne croyait à aucune prophétie. Au contraire, les prophéties étaient une insulte à sa raison. Il n'avait pas besoin d'elles. C'est pourquoi il n'a rien pressenti de l'avenir. Il se contentait d'éduquer en lui-même des goûts, des conceptions. Il s'efforçait de vivre selon ses conceptions et de dispenser aux autres un certain enseignement. Vologda avait encore un autre aspect important. Il s'y était constitué une sorte d'école obligatoire, un « tech minimum de la révolution », pour s'exprimer dans le langage des années 30. Cette école obligatoire représentait certainement plus qu'une formation technique, c'était quelque chose comme un diplôme de fin d'études. Vologda était un lieu de déportation facile et en même temps un passage obligé, un honneur, pour ainsi dire, qui dépendait du déporté lui-même. Cette facilité, la déportation pouvait être interrompue à tout moment à la demande du déporté, sans parler de la proximité des capitales, une nuit pour aller à Moscou, une nuit pour aller à Pétersbourg. Cette facilité fournissait aux hauts fonctionnaires libéraux une justification statistique. Et dans les établissements pénitentiaires, les statistiques sont toujours à l'honneur. Combien en a-t-on déporté ? Tant. C'est donc que la lutte est bien menée. Et où les a-t-on déportés ? À Vologda. Les chiffres tranquillisaient les dirigeants et réjouissaient les libéraux. Ne comparez pas Vologda à la Sibérie. Vologda, c'est Moscou et Pétersbourg. Mais ne le dites pas devant les autorités. La déportation à Vologda était une échappatoire administrative des ministres tsaristes libéraux du début du XXe siècle. C'est pourquoi il ne s'y passait pas un jour sans compte-rendu, débat ou discussion. Bien sûr, comme tout lieu de relégation, Vologda avait ses drames, ses meneurs et ses prophètes, ses charlatans. Mais je n'écris pas l'histoire de la Révolution, ni celle de ma famille. J'écris l'histoire de mon âme, rien de plus.
Cet extrait du récit de Varlam Chalamov, la quatrième Vologda, réédité aux éditions Verdier, est lu par Nicolas Racca. Réalisation Anne-Pascale Desvignes.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 10 décembre 2008. Vous pourrez la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».